Bonjour, c'est Fabrice Almeida. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure Cap au Nord avec un des pionniers de l'écologie, Paul-Émile Victor.
Au cœur de l'histoire.
La recherche scientifique, c'est aujourd'hui un travail d'équipe avec des moyens qui sont les moyens de 1980 et plus les moyens d'avant la guerre de 1934, 35, 36 que j'ai connu, qui est le traîneau à chien. Évidemment, j'aime mieux être avec des chiens qu'avec un véhicule, mais l'aventure sous une autre forme, elle existe toujours. D'ailleurs, elle existe forcément parce qu'elle est dans le cœur de l'homme, elle n'est pas externe à l'homme. J'ai connu des gens qui ont vécu des aventures et qui sont ennuyés énormément.
La voix de Paul-Émile Victor. On était au milieu des années 70 et il se rappelait sa jeunesse, ses premières expériences, ses premières recherches. Avec cette phrase, l'aventure est dans le cœur des hommes. C'est ainsi que lui est parti vers le Groenland, vers les mers glacées au milieu des années 30 et il y a découvert un milieu fragile, aujourd'hui menacé, en voie de disparition, à mesure que le réchauffement climatique fait fondre les glaces. On va retrouver avec Paul-Émile Victor cet étrange rapport que l'homme noue avec son environnement, un rapport de dépendance, mais aussi parfois de destruction. Mais pour bien comprendre notre histoire, il faut se situer en août 1934. Nous sommes dans la mer de Norvège, quelque part entre l'Islande et le Groenland. Il y a une brume épaisse sur la mer. Et un trois-mâts essaye d'avancer entre les blocs de glace. Il s'appelle le Pourquoi pas. C'est un navire important, 42 mètres de long pour 10 mètres de hauteur. Il n'en est pas à sa première expédition polaire. Il est dirigé par le commandant Charcot. C'est lui qui, depuis plusieurs années, mène des expéditions vers les mers froides. Il est parti de Saint-Malo un mois plus tôt, en juillet 1934. Il a traversé de nombreuses intempéries. Au fur et à mesure du voyage, en remontant vers le nord, la température est descendue jusqu'à passer en dessous de zéro. Les icebergs, qui étaient petits au départ, se transforment en imposants blocs de glace. Au-delà de leur taille, ils sont impressionnants parce qu'ils sont en permanence en mouvement, emportés d'autant plus par une tempête polaire qui s'est mise à souffler. Sur le pont, un homme encore jeune apparaît. C'est Paul-Émile Victor. Laissez-moi vous le décrire. Il est relativement élancé, de bonne taille. Il a une tignasse avec des cheveux châtains pas toujours bien coiffés, un visage tranchant, sur lequel commence à pousser déjà une légère barbe. Il est vêtu d'une peau de mouton, d'une veste en peau de mouton, pour essayer de résister au froid. À chaque fois qu'un bloc de glace vient heurter le flanc du Pourquoi pas, il sursaute. Autour de lui, il y a un bruit permanent, celui du moteur. Mais il peine à fonctionner. Et parfois, il tombe en panne. Quelques jours plus tôt d'ailleurs, l'équipage a hésité à faire demi-tour à cause d'une avarie des machines. Pour Paul-Émile Victor, pas question que ça se reproduise. Il faut atteindre le Groenland. C'est une promesse qu'il s'est faite à lui-même. Rien ne pourra le faire reculer, même les éléments déchaînés. Mais malgré sa détermination, deux blocs de glace viennent se refermer sur la proue du navire. Le bateau semble piégé. Les marins tentent à l'aide de pics de faire reculer les blocs, de casser la glace, mais en vain. Le soir même, dans la cale qui lui sert de chambre à la lueur de sa lampe, Paul-Émile Victor écrit quelques mots tristes dans son journal de bord.
Chaque coup de butoir dans les glaces, chaque tour d'hélice bancale nous éloigne du Groenland. Il sonne le glas de mes rêves. Il présage d'une catastrophe proche, soubresaut du vieux navire, comme des sanglots.
Paul-Émile Victor est au bord du découragement comme une partie de l'équipage. Pourtant à bord, il y a un homme qui garde le moral et qui garde l'espoir. C'est le commandant Charcot. À cette époque, il est âgé de 67 ans et il a effectué déjà bien des expéditions polaires. Celle-ci, d'ailleurs, n'est pas forcément la plus difficile. Pendant des jours, il reste à la barre pour surveiller la situation critique. Avec sa barbe et sa moustache blanche, il fait preuve de son pragmatisme coutumier. À Paul-Émile Victor et aux hommes de l'équipage, il tient un discours encourageant.
Vous voyez, les enfants, notre situation est caractéristique de l'Arctique. L'an dernier, en 1933, il n'y avait pas une glace le long de cette côte. Et des experts en ont conclu, en laboratoire, que la navigation dans ces régions est à la portée de tous et de n'importe quel navire. Pour eux, la banquise n'existerait que dans l'imagination de gens comme moi, parce qu'ils y trouvent leur intérêt. Vous le voyez vous-même, cette année. Pas question d'approcher à moins de 50 km de la côte.
Charcot sait que les conditions climatiques dans cette région peuvent changer brusquement, rapidement. Et l'histoire va lui donner raison. Le samedi 18 août 1934, après une semaine d'immobilité totale, le soleil réapparaît et vient réchauffer la glace. Le bateau est enfin sorti de son piège. L'expédition peut continuer. Paul-Émile Victor le sent, l'arrivée au Groenland n'est plus qu'une histoire de jours. Cette aventure pour laquelle il a tant œuvré va enfin advenir. Mais comment un jeune homme inexpérimenté de 26 ans a-t-il pu prendre la tête d'une expédition polaire? Comment le commandant Charcot a-t-il pu lui confier une telle responsabilité? Pour le comprendre, il faut revenir quelques mois plus tôt. Au moment où, en janvier 1934, Paul-Émile Victor a enfin l'occasion de rencontrer le commandant Charcot avec qui il a échangé deux lettres. L'homme lui a demandé de préciser quel était son projet. Et puis, après un long silence, une bonne réflexion, ils en sont arrivés à cet échange que je vous propose d'écouter.
Alors voilà, commandant, je me permets de vous demander de m'emmener à Amasalik et de m'y laisser un an pour étudier les Esquimaux et en rapporter des collections pour le musée du Trocadéro.
À Amasalik?
Oui, commandant.
Mais vous savez, mon petit, que je ne vais jamais qu'au Scrub Island, à 100 km de là. Eh bien, vous ne manquez pas de toupet. Bon, entendu, mon petit, je vous emmène.
Paul-Émile Victor a gagné son pari. Le commandant Charcot a accepté de le soutenir dans son expédition. S'il a eu ce rêve, c'est parce que, après avoir fait son diplôme à l'école centrale de Lyon, après avoir travaillé dans l'usine de son père pendant 3 ans, Victor a décidé de reprendre des études. Quelque chose lui manquait, quelque chose n'allait pas. Il a donc fait des études de lettres et d'ethnologie à nouveau à Paris. Et enfin, il se sent prêt pour partir à l'aventure, pour être un véritable découvreur. Et c'est ainsi qu'il a pu obtenir et qu'il a pu rencontrer ce lieu, à Amasalik, où il pourrait avoir des Inuits peu connus, et peut-être faire une découverte importante concernant l'humanité. Voilà comment il s'est préparé personnellement, mais il a fallu aussi monter l'expédition. Car il n'est pas seul à se rendre à Amasalik. Ils seront 4 en tout. Il y a d'abord un médecin anthropologue, Robert Gessin, un géologue, Michel Pérez, et puis Fred Mather, qui était un peu l'homme à tout faire, mais qui en même temps est devenu le cinéaste de l'expédition. Il tirera d'ailleurs un film de cet exploit. Charcot a accepté de prendre ses hommes, le voyage a commencé, le bateau progresse, et il y a dans l'esprit de Paul-Émile Victor une attente, celle de rencontrer les hommes pour lesquels il fait ce long voyage, des Inuits. Alors il va en croiser, évidemment, jusqu'au moment où il va arriver à Amasalik. Mais pourquoi Paul-Émile Victor est-il si sensible aux autres, à l'altérité, aux autres manières d'être et de vivre? Peut-être parce que lui-même a vécu l'expérience de la différence. C'était pendant la Première Guerre mondiale, il était encore tout jeune. Son père était d'origine autrichienne et la famille vivait dans le Jura, à Lons-le-Saunier. Or, des rivaux industriels de son père n'ont pas hésité à le faire accuser d'espionnage en espérant que l'anti-germanisme lui valent une arrestation et peut-être un démantèlement de ses activités. À cette époque, à Lons-le-Saunier, cela avait été une sorte de mini-affaire Dreyfus qui, heureusement, s'était finie positivement et le père avait été blanchi. La famille Victor avait donc pu retrouver le cours normal de son existence à Lons-le-Saunier et l'usine, d'ailleurs, avait prospéré puisque, rappelez-vous, Paul-Émile avait même pu y travailler au début des années 30. Cet épisode l'a sans doute marqué, traumatisé, dans les préjugés que les uns peuvent avoir sur les autres. Aussi, avant d'aborder les Inuits, peut-on penser que Paul-Émile Victor a en quelque sorte fait le vide de ses préjugés? Il veut rencontrer l'humanité pure. C'est en cela qu'il est véritablement un pionnier de l'écologie. Rappelez-vous, écho, la maison, et logos, la réflexion. Une réflexion sur l'environnement, la maison, tout ce qui entoure l'être humain. C'est cela qu'il veut rencontrer chez les Inuits d'Amasalik. Charcot l'a donc déposé, lui, avec ses camarades d'expédition, dans la baie d'Amassalik. Et puis, il a continué son voyage vers une autre partie de la banquise du Groenland qui l'attend. Les quatre hommes se trouvent seuls et, d'une certaine manière, ce premier contact leur permet de comprendre ce qu'est la vie au Groenland. Il y a d'abord la présence extraordinaire, la puissance de la mer qui vient frapper la côte, son odeur, son parfum. Et puis, quand on tourne la tête, qu'on ouvre ses oreilles, on entend non seulement la rumeur maritime, mais les cris de tous ces oiseaux innombrables qui sont sur la côte. Un peu plus loin, on aperçoit la silhouette des phoques qui jouent dans l'eau. C'est toute une autre nature qui est peut-être plus belle encore que ce qu'il pouvait espérer. Voici comment il décrit ce décor en 1934.
Là-bas, le fjord brille. La résonance des icebergs majestueux sur lui répond au silence des sommets alpins inconnus. Ce fjord est le plus grand de l'Arctique. Il pénètre 325 km dans les terres. Il se divise en une multitude de fjords, énormes doigts d'une gigantesque main. Il a 35 km de large à l'entrée. Personne, jusqu'à cette année 1934, n'en a exploré le centième.
Dans cet environnement grandiose, les quatre hommes ont fini par déposer le matériel qu'ils ont apporté ainsi que les vivres. En dépit des vastes distances et des vastes espaces, les Inuits sont parfaitement au courant de l'arrivée des quatre hommes. Et très rapidement, ils vont entrer en contact avec ce groupe, dont d'ailleurs le nom Eskimo signifie « l'homme qui mange de la viande crue ». Ce groupe a été travaillé par un Danois qui s'appelle Gustav Holm, qui était venu en 1884 à Amassalik. C'est lui qui avait commencé par décrire cette communauté un peu particulière, différente des groupes inuits de l'Alaska, du Canada ou de la Sibérie. Il a montré qu'ils avaient leur propre dialecte, leur propre manière d'évoquer le monde. Paul-Émile Victor va rencontrer un chef de famille et visiter une petite habitation qu'il a construite sur la banquise. Au seuil de l'entrée, l'explorateur est étonné. Voici sa description.
Expérience excitante, un peu inquiétante aussi. Je vais vivre le premier moment extraordinaire de ma vie d'explorateur. Mon rêve se concrétise, celui qui a provoqué ma vocation. En entrant dans la hutte, je pose le pied sur une dalle branlante. Je ne vois rien, mais je sens. Une odeur forte à laquelle est venue s'ajouter celle de la graisse brûlée, à la fois graillon et poulet que l'on fait roussir. Mais il y a autre chose. Quelque chose d'indéfinissable, un peu acide, un peu fétide, avec un léger relent d'ammoniac. Celui de l'urine fermentée, stockée dans des bassines et destinée au tannage des peaux. Je la hume cette odeur, pour bien m'en imprégner. Je me dis que je vais vivre avec elle pendant un an. Il vaut mieux que je m'y habitue sans tarder. Malgré ma résolution, mon courage et mon enthousiasme, je ne peux pas dire que ce fut facile.
Les odeurs le fascinent. Il va vivre avec ces odeurs radicalement différentes de celles du Jura pendant des mois, une année entière, passée en immersion dans un groupe inuit. Il n'est plus en contact avec le groupe de l'expédition qui est resté sur le bord de la côte, lui a suivi une famille à l'intérieur. Il faut imaginer l'objectif qu'il s'était fixé, arriver à faire oublier qu'il était un Européen, qu'il était, comme on disait à l'époque, un homme blanc. Il veut être partie prenante de la vie des Inuits. Et il va avoir cette chance. Cela lui permet d'ailleurs de tirer quelques leçons. La culture peut être différente, mais l'humanité reste la même partout. Les sentiments qu'il voit se développer chez les Inuits sont les mêmes. Il y a en revanche des règles de politesse un peu différentes. Et tout cela lui permet de redessiner et de comprendre ce qu'est la vie de l'homme dans son environnement. Au début de son installation, Paul-Émile Victor et ses camarades continuent de se nourrir des vivres qu'ils ont apportés avec eux, des sardines à l'huile, des harengs marinés. Mais bientôt, ils doivent devenir comme les Esquimaux, des hommes qui se nourrissent de viande crue. Commence alors le régime alimentaire local que Paul-Émile Victor a décrit. Il y a d'abord tous les poissons qui sont fournis par la pêche et la chasse et qui sont justement mangés sans être cuisinés. Et puis, il y a aussi des plats cuits, avec du bouillon de renne, par exemple, ou des plats à base de viande d'ours, et bien sûr, du phoque qui est omniprésent, jusque dans les petites galettes de farine avec du levain qui sont frites dans de la graisse de phoque. Tout cela est bien loin des habitudes alimentaires qu'il avait pu contracter dans le Jura, la poule au riz que lui faisait sa mère, il l'évoquera, ou le poulet au vin jaune. Et c'est dans ces détails que se niche souvent la nostalgie. Et la nostalgie, il faut bien le dire, est la mère du doute. Et commence à venir dans l'esprit de Paul-Émile Victor une interrogation. A-t-il bien fait de partir ? Il s'en ouvre dans son journal.
Peut-être aurais-je dû rester à Lons-le-Saulnier dans le Jura, dans l'usine paternelle, choyé par ma mère tous les jours et gavé de poule au riz le dimanche. Je me serais peut-être marié avec mon amour de jeunesse. Nous aurions eu beaucoup d'enfants que nous aurions confiés aux grands-mères lorsque nous serions partis nous secouer le train-train en croisière touristique de luxe avec l'espoir de croire en l'aventure. J'ai 27 ans, je sens bien que tel n'est pas mon destin. Il faut savoir construire sa vie et je ne la construirai pas derrière un bureau.
Les doutes vont en partie se dissiper grâce à une rencontre qu'il fait sur place, celle d'une Esquimau, toute jeune, elle a 19 ans, elle s'appelle Doumédia, et elle va lui adoucir la présence au Groenland. Évidemment, Paul-Émile Victor n'a pas arrêté de travailler. Il a constitué un fichier ethnographique dans lequel il note les événements de la vie quotidienne, tout ce qui peut permettre de comprendre le mode de vie des Esquimaux. Il effectue aussi des dessins afin de faciliter la compréhension et il s'intéresse de près à la poésie et à l'univers des légendes et des contes chamaniques. Fred Mather, le cinéaste, lui, a filmé une partie de l'environnement et il a aussi pris des appareils sonores afin d'enregistrer des cérémonies. Au bout d'un an de travail, ils ont rassemblé un matériau unique, plus de 3500 pièces ethnographiques et puis des enregistrements sonores de chants traditionnels et plus de 8000 photos. Paul-Émile Victor peut être fier d'avoir rempli en quelque sorte un ensemble de documents qui va par la suite être donné au musée ethnographique et puis au musée de la parole et du geste. Ce qu'il a réussi à percer, c'est ce qu'il va appeler lui-même la civilisation du phoque, c'est-à-dire une civilisation et une société qui repose presque entièrement autour de l'exploitation d'une seule ressource, d'un seul animal, le phoque. Que le phoque vienne à disparaître, et la civilisation inuite en serait totalement bouleversée. Charcot comprend par reflet à quel point la civilisation occidentale, la nôtre, pourrait à son tour devenir dépendante d'un seul produit, le pétrole par exemple, ou d'un élément alimentaire qui pourrait la rendre d'autant plus fragile. Voilà comment sa conscience écologique est liée à son analyse et à sa compréhension des phénomènes ethnographiques. C'est tout cela que cette première expédition de 1934 lui permet de toucher du doigt et c'est ce qui fait que, à son retour, il va être écouté et entendu d'une manière tout à fait originale. Au bout d'un an donc, en 1935, comme prévu, le « pourquoi pas » se dessine à l'horizon, le navire approche et non sans émotion, Paul-Émile Victor et ses trois compagnons doivent dire au revoir à leurs compagnons esquimaux. Bientôt, ils montent à bord et à nouveau, après quelques semaines de voyage, ils redécouvrent la civilisation occidentale. Le monde de la fête, les grandes villes, Paris. Paris, évidemment, cela fait penser à tous ces lieux de luxe, mais aussi, pour Paul-Émile Victor, ce sont les musées. Le musée du Trocadéro, qui accueille les collections ethnographiques, le musée de la parole et du geste, où vont atterrir une partie de ces collections. Mais c'est aussi le Paris des journalistes, avec les interviews qui sont données dans les grands journaux, comme Paris Soir, Le Quotidien, qui lui consacre un long dossier. C'est aussi le Paris des curieux et des intelligences, comme ce public qui a décidé de venir lui faire une ovation et de l'écouter avec passion à la salle Pleniel, salle qui d'habitude reçoit des concerts, mais qui va devenir un des lieux d'élection de Paul-Émile Victor, qui régulièrement viendra entretenir son auditoire des magnifiques découvertes faites dans les mers froides. Le premier soir en 1935, ils étaient 3000 à pouvoir entendre sa parole dans les fameuses conférences Connaissances du monde. Bien évidemment, à l'époque, le mot « écologie » était peu utilisé. Pourtant, ce que veut Paul-Émile Victor, c'est faire comprendre à son public et aux Français des années 30 que les Esquimaux ou les Inuits sont des êtres humains comme eux, qu'il n'y a pas de différence radicale, que leur conception de la justice, leur conception de la vérité pourrait être partagée par un homme du monde occidental. Il y a dans chaque civilisation un rapport particulier qui se noue entre l'homme et la nature, entre l'homme et sa culture. Paul-Émile Victor va soutenir ses camarades inuits dans leur tentative de préserver leur environnement, comme plus tard il soutiendra les habitants de la Polynésie, eux aussi, face à une dégradation de leur qualité de vie. Au fil de ses nombreuses interviews ou interventions, de ses livres, Paul-Émile Victor a fini par esquisser une philosophie environnementaliste. Au fond, l'être humain, les êtres humains, ne peuvent pas vivre contre leur planète. Ils doivent entretenir cet écosystème fragile, sans lequel ils disparaîtront. En regardant la fonte des glaces et la disparition possible des mondes des mers froides, ils seraient sans doute aujourd'hui saisis d'effroi. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Présenté par Fabrice Dalméda.
Préparé par Adèle Salmon. Réalisé par Christophe Daviau.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.